Chapitre 25. Belle resta le souffle coupé. Elle recula sa chaise. Ce n'est pas tant qu'elle craignait les grosses araignées marrons, mais elle préférait les voir ailleurs que dans son assiette. L'araignée se promena sur les pâtisseries, creusant de toutes ses pattes dans les glaçages. Quand elle fut au bord du plat, un scarabée noir brillant se posa sur la table. La jeune femme reconnut l'insecte qui avait souillé les macarons pendant le bal, ses fameuses ailes irisées. 4 ou 5 clients du café avisèrent l'intrus et grimacèrent sans interrompre leur dégustation. Belle, pour sa part, cherchait du regard la comtesse, mais celle-ci n'était pas ressortie de l'établissement.
« Je peux t'offrir une douceur ?»
proposa-t-elle au scarabée en lui tendant un marron glacé. L'insecte se dressa sur ses pattes arrière et envoya valser le marron d'un coup d'antenne.
« On te raconte des mensonges, petite cruche »
tempêta-t-il en menaçant Belle d'une griffe.
« Oh, tu sais parler ?»
faillit s'étouffer celle-ci.
« On dirait bien. Cesse de manger ces cochonneries. T'en es mort, c'est dangereux !»«
Que racontes-tu ? Depuis quand les pâtisseries sont-elles dangereuses ?»
La gourmande s'était exprimée avec une pointe de mépris. Mais aussitôt après, une sensation de malaise l'envahit. C'était la deuxième fois que ce scarabée tentait de l'empêcher de manger. Il ne répondit d'ailleurs pas, se contentant de jeter par terre une tartelette. L'araignée fit de même avec un chou.
« Arrêtez !»
s'indigna Belle.
« C'est très mal poli, scarabée !»«
Lucanos !»
la corrigea l'intéressée d'une voix hautaine.
« Je m'appelle Lucanos et non scarabée. Mon ami, ici présente, c'est Aranae.
« Pourquoi ne devrais-je rien manger ?»
le relança Belle.
« Qui vous envoie ?»
Elle se rappelait les mots de la comtesse, la folle qui possédait des insectes. Ceux-ci avaient-ils fait le voyage jusqu'à Paris ? La folle les avait-elle apportés elle-même ? Se trouvait-elle à proximité ? Angoissée, Belle observa les alentours.
« Qui nous envoie, on s'en moque !»
affirma le scarabée.
« Ce qui compte, c'est que tu saisisses la règle des trois. Si tu manges des choses, ou si tu abandonnes des choses... »
Lucanos s'interrompit brusquement. Son regard se braqua sur la droite. Belle se tourna dans la même direction, s'attendant à voir surgir la folle. Ce n'était que la comtesse.
« Plus vite, Aranae !»
encouragea Lucanos. À eux deux, l'araignée et le scarabée poussèrent le plateau de douceur qui s'écrasa par terre, et les deux coupables s'éclipsèrent dans la foulée.
« Grand Dieu !»
s'exclama la comtesse.
« Qu'est-il arrivé ?»
Belle lui expliqua tout.
« Répugnante créature, mais au moins elles ont disparu. La folle ne vous a pas approché, j'espère. »«
Non ?»«
C'est heureux.
Cette femme est capable de tout, Belle. En aucun cas, vous ne devez vous retrouver seule avec elle. J'insiste. » La jeune femme acquiesça, puis changea de sujet.
« Et votre parente ? Vous avez pu lui parler ?»«
Tout à fait, » sourit la comtesse. « Ça a été charmant. Je vous l'aurais bien présentée, mais elle était pressée. »
Madame des Terres des Morts appela un serveur pour régler l'addition.
« Je dois rentrer à présent, » annonça-t-elle ensuite à Belle. « Il se fait tard, j'ai besoin de repos. Vous aussi, Belle, nous avons tant à préparer. Rome est féerique en cette saison.
À moins que vous préfériez Florence. »
Belle se laissa emporter avec délice dans le tourbillon de ses descriptions de l'Italie. Elle en oublia Lucanos et ses avertissements. Elle ne pensa plus du tout aux moyens de se rendre à Rome ou Florence quand la comtesse évoqua le plafond de la chapelle Sixtine et les boutiques du Ponte Vecchio. Bras dessus, bras dessous, les deux amies regagnèrent la calèche. En chemin, elles s'arrêtèrent pour admirer une troupe d'acrobates de Shanghai, des prestidigitateurs de Zanzibar, ainsi qu'un magicien de Constantinople.
« Oh, regardez !»
intervint soudain la comtesse en désignant un individu.
« Monsieur Truquet, ces créations sont les plus ravissantes de Paris. Vous devez absolument les voir. »
Sans perdre un instant, Elle entraîna sa protégée vers une tente encadrée par des torches enflammées. Sous la tente, trois personnes parfaitement immobiles. Un homme, devant un clavecin, un roi, la tête légèrement inclinée, une reine figée dans l'exécution d'une révérence. Approchant, Belle constata qu'il s'agissait d'automates. Tête et mains en papier mâché, sourire dessiné, yeux de verre. D'autres spectateurs vinrent admirer le spectacle.
« Voici truqué !»
indiqua la comtesse en montrant une personne chauve et mince, les mains croisées l'une sur l'autre. Le jabot de sa chemise blanche bouffait hors son long manteau gris. L'homme promenait un regard acéré et attentif autour de lui. Au bout d'une poignée de secondes, il toussa. Ce bruit rauque imposa le silence à la foule. Truqué put alors produire une grosse clé en bronze et déclarer
« La clé de la vie !»
en la montrant. Il s'approcha ensuite du claveciniste, inséra la clé dans le dos de l'automate et la tourna. Un «
Oh !»
collectif monta des spectateurs quand les mains du musicien se mirent à danser sur les touches, créant de la musique. Monsieur Truquet s'occupa ensuite de la reine, dont la poitrine se gonfla comme pour prendre une inspiration. Elle acheva sa révérence, releva la tête et sourit. Vint enfin le tour du roi. Celui-ci se redressa lentement sous l'effet de la clé avant de tendre la main à la reine. Et les deux personnages de danser en des mouvements d'abord saccadés, puis gracieux.
« Mesdames et messieurs !» claironna Truquet. « Je vous présente le roi Otto et la reine Mathilda !»
La foule applaudit.
« Remarquable, n'est-ce pas ?»
murmura la comtesse Abel. Quelques secondes durant, la magie opéra. La jeune femme crut que les automates étaient vivants. Puis, leurs mouvements ralentirent. La manche du musicien remonta légèrement sur son bras, révélant l'articulation métallique du poignet. Sa tête s'inclina, ses mains se figèrent. La musique cessa. Les jambes de la reine se raidirent. Son sourire se durcit. Dernier à avoir été remonté, le roi dansa seul quelques instants encore, avant de ralentir à son tour. Les mécanismes qui l'animaient s'arrêtèrent. Ses jambes, statufiées, ses épaules s'affaissèrent. Une fraction de seconde avant de se refermer, ses yeux croisèrent ceux de Belle. Celle-ci lut en eux une nostalgie profonde qui lui serra le cœur. L'automate tendit une main dans sa direction, puis se ramassa sur lui-même.
« Oh !» s'écria Belle. « Le pauvre roi !»«
Qu'y a-t-il, mon enfant ?» lui demanda la comtesse.
« Il semblait si triste, madame, comme s'il désirait ardemment d'être en vie. »
« C'est vrai, je l'ai également remarqué. »
Un petit garçon passa parmi les spectateurs, un chapeau à la main. La comtesse sortit une pièce en argent de son réticule en soie. Elle aussi émue par la performance. Belle voulut contribuer. Le soir où elle était partie de Villeneuve pour tenter de retrouver son père, elle avait emporté quelques sous, au cas où. Une somme modeste, mais c'était tout ce qu'elle possédait. Elle la conservait dans une poche de sa robe de travail, avec son mouchoir en soie. Souvenir bien concret de sa maison. Nevermore avait métamorphosé sa robe. Les pièces se trouvaient-elles encore dans la poche? Belle fouilla toutes celles de sa nouvelle toilette jusqu'à les trouver ainsi que son mouchoir.
« C'est adorable, Belle !»
approuva la comtesse en la voyant s'apprêter à les remettre au garçon.
« J'aimerais donner tellement plus !»
regretta la jeune femme.
« Taratata ! Quoi que vous donniez, ce sera apprécié, je vous en prie. »
Le garçon approcha, tout sourire. La comtesse déposa sa pièce dans le chapeau. Belle s'apprêtait à l'imiter quand, surgit de nulle part, une femme s'interposa. D'un geste vif, elle arracha le chapeau des mains de ce dernier, puis prit la poudre d'escampette. La femme portait un voile sur le visage. Belle ne vit qu'un tourbillon de jupons blancs.
Au voleur ! Stop !
Cria Truquet.
Attrapez-la !
Ajouta un spectateur.
Vite ! Elle va s'échapper !
S'indigna une dame. Trop tard. La voleuse avait déjà franchi la cour. Elle s'engouffra dans un passage et disparut.
Elle vient de voler le chapeau du petit !
Enragea Belle. Les mains tremblantes, elle rangea ses pièces, craignant qu'elle ne lui échappe.
Oui, confirma la comtesse qui cherchait toujours la voleuse d'un regard assassin.
Je ne l'ai pas vue venir.
Elle devait être tapie dans l'ombre, à attendre le bon moment. Cela ne tenait pas debout. La comtesse n'était-elle pas l'auteur de Nevermore ?
Mais enfin, comtesse, c'est vous qui écrivez cette histoire. Comment cette personne a-t-elle pu imposer sa présence ?
Oh, Belle, c'est le drame de tous les écrivains. Ces personnages pénibles. Ils font ce qu'ils veulent et nous n'avons pas notre mot à dire.
Reprenant Belle par le bras, Madame des Terres des Morts ajouta : Pauvre enfant, vous tremblez. Tâchons de retrouver Mouchard et la calèche. Nous avons eu assez d'émotions pour ce soir. Et elle éloigna sa protégée de Truquet, sa tante et la foule. Distraite par un homme qui jonglait avec une hachette, un chiot et un ananas, Belle ne vit pas le regard discret que la comtesse adressa à M. Truquet, ni le mouvement de tête de celui-ci en réponse, ni la tape qu'il adressa au roi immobile, ni le sourire qu'il afficha.